Il nous reste maintenant à analyser la sixième et dernière action de management, action fondamentale j'entends, qui est sanctionner. Et le titre que je donne à cette rubrique, c'est sanctionner, deux points, la galère, point d'exclamation. En effet, voici une action qui, comme le contrôle et le recadrage, a très mauvaise réputation. Elle a même, vraisemblablement, une réputation encore plus sulfureuse. Cette action est souvent vécue par les managers comme la dernière extrémité à laquelle la direction se résout, la mort dans l'âme. Du côté des salariés, elle est souvent perçue comme une mesure infamante, je dirais une tâche sur l'honneur professionnel de la personne sanctionnée. Donc c'est pas étonnant si ce sujet est souvent tabou dans les organisations. Et cette réputation sulfureuse dont je parle est souvent due au fait que la démarche qui conduit aux sanctions n'est pas toujours menée de façon pertinente. Voici quelques exemples d'erreurs. Une erreur classique, le manager laisse son collaborateur, je dirais, s'enfoncer dans l'erreur sans réagir. Et il attend en espérant échapper à la corvée du recadrage. Et en l'occurrence, il est bercé par l'illusion que son collaborateur va certainement finir par se rendre compte par lui-même de ses dysfonctionnements et les corriger. Il s'agit clairement d'une illusion. Autre exemple, le manager ayant bien rempli ce que j'appelle son vase d'acide, expose brutalement et a un comportement qui est inadapté à la situation. Il peut même aller jusqu'à avoir un comportement qui est en infraction avec le code du travail. Autre exemple, le manager menace son collaborateur d'une sanction sans être réellement décidé ou sans avoir le pouvoir de l'appliquer si nécessaire. Et lorsque le dysfonctionnement apparaît à nouveau, le collaborateur n'est pas sanctionné. Et cela discrédite le manager et rend complètement inopérant les instruments de maintien du cadre que sont règlements intérieurs, normes et valeurs, etc. Parce qu'il y a une règle qui dit que lorsque le cadre est en frein et qu'il n'y a pas de sanction, ça équivaut à ce qu'il n'y ait plus de cadre. Autre exemple d'erreur, le manager sanctionne son collaborateur avec l'intention de lui faire payer. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme de vengeance pour faire payer à l'autre les tracas et les angoisses que son dysfonctionnement a causé. Et là, on n'est pas dans la réparation, on est dans la vengeance. Autre exemple, le manager n'ose pas sanctionner son collaborateur parce qu'il a peur que ce dernier lui fasse la tête. Un autre exemple très fréquent, enfin que j'ai rencontré très fréquemment, le manager trouve le fait de sanctionner la personne trop sévère parce qu'il m'explique que cette personne, au-delà de son dysfonctionnement, a des qualités certaines, a rendu déjà des services à l'entreprise. Et donc ça serait quand même pas juste, le pauvre, ça serait pas juste de le sanctionner. Et le manager me dit ça tout en admettant qu'effectivement la personne a un dysfonctionnement qui relève d'une sanction. Donc voilà quelques exemples que j'ai choisis parmi les situations que je rencontre régulièrement et qui sont donc des exemples de dysfonctionnement de la démarche de sanction. Et comme pour le recadrage, on peut constater que ces difficultés viennent à la fois parfois d'un manque de connaissances techniques, de savoir-faire technique, et fréquemment aussi de confusion d'ordre psychologique. Alors je vous propose qu'on voit maintenant quels sont les besoins auxquels répond le fait de sanctionner. Besoin pour les collaborateurs. Le premier besoin, c'est un besoin de performance. Puisque le fait de sanctionner permet de stopper un dysfonctionnement et donc donne la possibilité aux collaborateurs de prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer ce fonctionnement. Donc, le fait de sanctionner, dans la mesure où c'est fait correctement, est porteur d'amélioration de performance. Un autre besoin qui est satisfait par le fait de sanctionner, c'est le besoin d'équité. J'ai élaboré un modèle théorique issu de la pyramide de Maslow, et dans ce modèle théorique, j'ai déterminé 5 grandes catégories de besoins d'une personne au travail. Et dans une de ces catégories est le besoin de sécurité psychologique. Et à l'intérieur du besoin de sécurité psychologique, un élément de besoin, c'est le besoin d'équité. C'est un besoin qui est très puissant. Les collaborateurs n'ont pas besoin d'égalité, ils ont besoin d'équité. Et il s'agit d'abord et avant tout de l'équité avec laquelle le leader joue son rôle de gardien du cadre et distribue les signes de reconnaissance positifs et négatifs à ses collaborateurs. Maintenant, voyons quelques règles de base à respecter quand il s'agit de sanctionner. La première règle que je propose, c'est ne jamais donner de signe de reconnaissance inconditionnel négatif. Alors ça, c'est un terme issu d'outils d'analyse transactionnelle. Je vous explique de quoi il s'agit. Un signe de reconnaissance inconditionnel négatif, c'est un jugement de valeur, un jugement qui est porté sur ce que la personne est du verbe être. Ça touche à son être. Cas typique, vous êtes nul, point d'exclamation. Il s'agit d'un signe de reconnaissance inconditionnel qui porte sur l'être de la personne et qui est négatif. Et il y a une grande différence entre l'inconditionnel et le conditionnel négatif. L'inconditionnel négatif, vous êtes nul. Le conditionnel négatif, c'est lié à une situation, c'est vous avez fait une ânerie. Ce que vous avez fait est inadmissible. Et là, on prend en compte et on met en cause pas ce que la personne est du verbe être, mais ce que la personne a fait du verbe faire. Et il y a une différence considérable en termes d'impact. Parce que vous pouvez même être très en colère contre ce que quelqu'un a fait. Dans la mesure où cette colère est affectée sur ce que la personne a fait, ça veut dire que vous la créditez a priori de la possibilité de faire autrement. Et la colère notamment est liée au fait qu'il aurait pu faire autrement. Et donc, vous n'admettez pas qu'il a fait de cette façon et vous lui demandez très fermement l'engagement de ne plus faire. Et là, donc, on est dans une démarche qui est une démarche de recadrage et de sanction qui peut conduire, inciter, pousser la personne à s'améliorer. Par contre, quand vous dites « vous êtes nul », eh bien, quand vous êtes nul, vous êtes nul. Comme disent les jeunes, nos futurs. Et donc là, c'est une incitation à abandonner, à laisser tomber. Une deuxième règle que je vous suggère d'appliquer, c'est juger les actes et ne pas juger les personnes. Lorsque vous prononcez une sanction, vous ne sanctionnez pas une personne, vous sanctionnez un comportement. Il se trouve que le comportement est attaché à une personne puisque c'est la personne qui est responsable de ce comportement, donc la personne va devoir assumer la sanction, mais la sanction vise un comportement. Et il y a une troisième règle qui découle de cette deuxième, c'est en conséquence, dans la mesure où c'est l'acte qui est jugé et non la personne, le même acte, dans les mêmes circonstances, doit entraîner la même sanction, qu'elle soit positive ou négative, quelle que soit la personne qui en est l'auteur, puisque ce qui est sanctionné, ce n'est pas l'auteur, c'est le dysfonctionnement. Et la quatrième règle, c'est donner réellement la possibilité à la personne d'expliquer son point de vue. Et enfin, une cinquième, c'est s'interdire toute prise de position à chaud. Je considère que le leader doit s'imposer le temps de réflexion nécessaire pour éviter les coups de tête ou les coups de sang qui sont compréhensibles, mais qui sont très probablement inéquitables. Voyons maintenant comment concrètement sanctionner de façon efficace et équitable. Lorsque vous avez constaté le dysfonctionnement, qu'il est avéré, et que vous avez fait au préalable le travail que je vous ai présenté sur la gestion des méconnaissances, vous pouvez éventuellement considérer que, en plus de ce travail, il est nécessaire que la personne soit sanctionnée. Et c'est le cas notamment si c'est pas la première fois que vous faites ce travail et que vous êtes face à quelqu'un qui a fait une récidive. Donc là, l'évidence, il y a un moment arrive où la nécessité de sanctionner s'impose. Dans ce cas-là, je vous suggère d'abord de faire une analyse à froid. C'est-à-dire, il s'agit d'analyser l'ensemble des éléments vous permettant de définir quel est, de votre point de vue, le niveau de sanction adapté. Et vous devez aussi vous référer au règlement intérieur de la structure. La deuxième chose que je vous suggère de faire, c'est de déterminer les options de sanctions qui sont légales. Donc, il s'agit de vérifier ce que la loi permet comme type de sanction dans le cadre du niveau de sanction que vous envisagez et par rapport à la situation. Et cette démarche me paraît absolument indispensable car lorsque vous aurez annoncé la sanction, cette dernière devra être appliquée. Sinon, c'est la crédibilité du système qui disparaît. Il doit donc ne pas pouvoir être mis en cause par une juridiction extérieure. De plus, une des règles premières d'éthique et d'équité que doit s'imposer un cadre est évidemment de respecter la loi. Et vu la complexité du droit du travail, je vous suggère vivement de valider vos options auprès de spécialistes, qu'ils soient internes, si vous disposez de services juridiques, ou externes. Troisième élément, prendre le temps et la précaution de vous ajuster avec votre direction générale. Vous devez présenter à votre direction générale les faits, l'historique, la nature et la gravité du dysfonctionnement, la nature des sanctions que vous envisagez et la cohérence des sanctions que vous envisagez avec les contraintes légales. Puis vous devez demander à votre direction d'abord son accord pour les sanctions que vous envisagez et éventuellement sur différentes options que vous pouvez proposer, demander à la direction générale d'arbitrer, de dire quelle est la sanction qu'elle retient. La deuxième chose impérative que vous devez demander à votre direction générale, c'est son engagement de vous soutenir en cas de difficulté ultérieure liée à l'application de ces sanctions. Il ne s'agit pas qu'il se sauve si à un moment il y a une difficulté. Il s'agit que l'ensemble de la hiérarchie soit en cohérence. C'est une excellente protection à la fois pour vous-même et pour votre hiérarchie. Quatrième élément, c'est prononcer la sanction. Alors je vous suggère de le faire dans le cadre d'un entretien individuel avec la personne concernée. Et vous pouvez reprendre la démarche que j'ai présentée concernant la direction générale, c'est-à-dire vous rappeler les faits, l'historique, la nature et la gravité du dysfonctionnement, la nature des sanctions que vous avez décidées, et la cohérence entre ces sanctions et les contraintes légales. Et vous ajoutez un élément, c'est vous informer la personne que cette sanction est prise en concertation et en accord avec la direction générale. Ce qui permet de limiter les tentations que la personne pourrait avoir de, comme je dis, tenter de faire battre papa contre maman. Alors j'ai une suggestion complémentaire. Si dans le cadre de la structure dans laquelle vous travaillez, il y a des délégués du personnel ou un représentant des salariés, je vous suggère systématiquement de demander à ce que ce délégué assiste à l'entretien. Et j'y trouve plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça vous permet de reconnaître cette personne dans sa fonction, qui est une fonction d'élu. Et si vous souhaitez que les personnes coopèrent avec vous, la première chose à faire pour générer de la coopération, c'est de reconnaître l'autre, et notamment de le reconnaître dans les fonctions qui sont les siennes. Le deuxième avantage, c'est que ça lui permet d'avoir accès à l'ensemble des informations, et notamment l'historique, la nature exacte du dysfonctionnement, et tout le travail que vous avez fait avec la personne que vous sanctionnez, dans un recadrage préalable, les engagements qu'elle a pris et qu'elle n'a pas tenus, et la récidive. Donc ça donne au délégué la possibilité de se faire un avis beaucoup plus objectif que s'il avait uniquement le point de vue du salarié. Un autre élément que vous avez à faire, c'est accepter la réaction de la personne. Là, je parle de la personne sanctionnée. Il est fort probable que cette personne ait une réaction affective négative. C'est naturel et il est nécessaire que vous l'acceptiez comme tel. Un autre point qui fait partie des actions qu'il me paraît indispensable que vous meniez dans le cadre de la sanction, c'est informer les autres membres de l'équipe. De mon point de vue, c'est une démarche délicate mais indispensable. Il est important que les autres collaborateurs soient informés par le manager des sanctions qu'il a prises à l'encontre de leurs collègues. De toute façon, ils seront informés. Et si le canal officiel de communication ne fonctionne pas, ça laissera le champ libre aux canaux parallèles. Et le problème des canaux parallèles, c'est qu'ils peuvent tout à fait amplifier, déformer la réalité. C'est même une de leurs caractéristiques principales. Donc cela peut conduire après à de sévères difficultés de communication. Et une autre difficulté, c'est que les canaux parallèles ne sont pas du tout maîtrisés par le leader. Alors certains managers ont de fortes réticences à informer les collaborateurs, car ils considèrent que ça représente une sanction supplémentaire pour le collaborateur concerné. Hein, bon, ça va pas être simple pour lui, hein, c'est clair, c'est un peu la honte. Et ce souci d'épargner, que je mets entre guillemets, ce collaborateur est très honorable, mais à mon avis il est peu adapté. Parce que si le fait de ne pas informer entraîne un risque de prolifération des bruits de couloir, par contre, le fait d'informer a d'autres avantages. Le premier avantage, c'est que ça montre que le manager assume aussi cet aspect de son rôle. Et quand il s'agit de recadrer, quand il s'agit de sanctionner, et tout le monde sait que c'est pas drôle, le manager, il sait assumer parce que c'est son devoir. Et cette affirmation est rassurante pour l'ensemble de l'équipe. Ça veut dire que lorsque nécessaire, le patron, il sait faire ce qu'il a à faire. De plus, il le fait de façon équitable, pondérée et transparente. Ça, c'est un gage de satisfaction du besoin de sécurité psychologique. Un autre avantage, c'est que ça permet aux autres membres de l'équipe, qui ont été témoins des dysfonctionnements de leurs collègues, de constater que ce dernier a été sanctionné. Et donc, c'est de nature à satisfaire leur besoin d'équité. Parce que les collègues peuvent tout à fait aussi considérer que le fonctionnement de ce collègue n'est absolument pas normal et attend la réaction de la direction. Et donc, le fait que la direction réagisse et réagisse en sanctionnant, c'est quelque part le fait de rassurer les gens sur le fait que le cadre existe, il est solide et que l'équité est respectée. Dernier élément, c'est que ça constitue aussi un avertissement clair pour tous, c'est-à-dire le cadre est là, le cadre est solide. S'il est enfreint, la sanction sera prononcée. Ben ça, c'est un message qui, du coup, s'adresse à tout le monde.